Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
On en parle. On en parle. C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid.
J'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à passer une heure et demie avec moi pour parler de l'actualité tech. J'espère que vous n'avez pas trop chaud aussi, tant qu'à faire. Et aujourd'hui, on va parler de pas mal de petits trucs. Donc ça va être sympa. Quelle intro, ça chie des braises. Ouais, du coup, comme il y a les nouveaux partenaires que vous voyez en haut à droite de votre écran, j'ai récupéré les assets pour pouvoir faire quand même le stream de chez moi. Et en l'occurrence, en tout, filer cette intro-là, ce countdown-là, qui, je crois, était plutôt le countdown, enfin le compte à rebours de comment ça s'appelle, de Unlock, donc l'émission qu'on a le jeudi après-midi. Tiens, d'ailleurs, il faut que je vous prépare un petit truc, parce que je fais un petit teasing. Hop. Donc de Unlock, l'émission qu'on a le jeudi après-midi, et qui est l'émission qu'on fait dans le studio au global. Hop, je télécharge ça. Et est-ce que je vais pouvoir vous afficher ça? Parce qu'on a du nouveau sur Unlock. Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de teaser. Au pire, on est entre nous. Hein. Donc je le fais tranquille. Mais on a du nouveau sur le plateau d'Unlock. Et un truc qui était attendu depuis un petit moment. Donc ça va être l'occasion de vous montrer ça. Actualité tech, exactement. Comment se faire un salon de jardin? Bah ouais, en vrai, c'est l'été. Si vous voulez qu'on parle de bois... Pourquoi pas? Je suis pas contre, je suis pas le plus pertinent. Je vous avoue que je vais surtout vous regarder en parler entre vous, mais ce sera à peu près tout. Qui ne doit faire que 10%, je crois, et que par moment, etc. Car nous, Twitch, on gagnera significatif. Ah, j'ai pas la ref. On gagnera rien. Personne ne gagne rien. Donc, du coup, on a pas mal de choses dont on peut parler aujourd'hui. Je vous fais un petit sommaire rapide. Comme d'hab, je me mets en partage d'écran. Et je crois que c'est effectivement celui-là que vous préférez. Celui-là, on voit le plus le texte qui est affiché. On est au printemps, c'est ça le truc. Ouais, c'est... je vous ai même pas raconté mon 10 km. Parce que du coup, si vous avez suivi un petit peu la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais un 10 km, le 10 km de Paris qui était prévu dimanche. Ça a été n'importe quoi. Quoi, je fais un temps de merde. Il a fait trop chaud, trop humide, pas suffisamment de ravitaillement, c'était horrible. Bref, 3 mois d'entraînement pour rien. J'ai couru littéralement un 10 km à la même allure qu'un semi-marathon, donc de 21 km, genre à la même allure. Donc, alors que théoriquement, un 10 km, comme c'est plus court, c'est censé être couru à une allure plus rapide, mais il faisait beaucoup trop chaud. Je suis parti trop rapidement aussi parce que les sas étaient mal foutus. Donc voilà, c'était pas incroyable. Faire une petite pause, je continue à courir, mais on va faire une petite pause dans l'entraînement, dans les programmes d'entraînement, et on verra l'an prochain pour un marathon ou pour le semi-marathon de Paris, je sais pas encore. Donc bref, ouais, ça va être compliqué. Les bandeaux pub, nouvelles règles de Twitch, etc., ils imposent des restrictions car Twitch ne gagnera rien sur un partenariat. Ah, ok. Après les bandeaux pub, je savais même pas qu'il y avait des restrictions là-dessus. J'en parlerai à Arnaud et Anto. Salut Anto, salut Geoffroy, salut les habitués, salut tout le monde, salut Jinx, j'espère que ça va bien. Eh ben écoutez, de quoi qu'on parle aujourd'hui, on va parler de Razer, on va parler de voitures électriques rapidement, parce que encore une fois, vous êtes au courant, ce n'est pas un domaine dans lequel j'excelle. PlayStation Plus, deux téléviseurs Panasonic, de Amazon Alexa, de Panasonic avec télé OLED, d'un nouveau vélo électrique pliant qu'on a pu tester, des nouveautés sur les Pixel smartphones, des nouveautés sur la Pixel Watch, des leaks sur des écouteurs Sony. Ça, évidemment, vous en doutez, je serai un peu plus à l'aise que sur le reste. Hein. Voiture électrique, Gigafactory, Tesla France, concours photo, je pense que d'ailleurs on va commencer par ça, parce que moi ça m'intéresse, et ça m'intéresse d'avoir votre avis aussi, et de vous pousser à aller voter. Réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, sujet de gros débat dans la rédaction, pour savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que ça existe, la réalité mixte? Moi je suis partisan de la réalité mixte, ça ne veut absolument rien dire. Mais on s'est mis d'accord dans la rédaction pour essayer de définir les termes, parce que c'est des termes qu'on utilise assez fréquemment et qu'on risque d'utiliser de plus en plus fréquemment. Donc voilà. On a discuté avec Akis. Akis Evangelidis, qui est donc un ancien OnePlus et l'un des cofondateurs de Nothing. Et on a eu pas mal d'informations sur le Nothing Phone 2, donc c'est plutôt intéressant. Google Bard en France, pourquoi est-ce que c'est pas encore dispo? Google, toujours cette fois avec la Commission européenne. Et tant qu'on parle de Commission européenne, l'Union européenne va imposer que les batteries des smartphones et ordinateurs portables soient facilement remplaçables, faciles à remplacer. Donc voilà, on a pas mal de petits sujets qui sont un peu assez cool. Razor, non. Lors du bus, elle est interdite celle-là. Elle est interdite. La réalité mixte, ça se rapprochait de ce que fait Oppo avec les Oppo Glass, mais en très léger. Réalité mixte égale on voit la réalité avec nos propres yeux et on voit des couches de virtuel en plus n'existent pas actuellement. Bah si. Typiquement, ce que faisaient les Google Glass, c'était ça. C'est là où avec Similitech, je suis pas forcément d'accord avec ces définitions-là. Parce que les Google Glass, alors certes, c'est du virtuel avec juste du texte, c'est pas des éléments 3D, etc. Mais ça reste de la réalité augmentée, en fait, ce que tu expliques. Moi, en fait, on va aller directement là-dessus, parce que je vois que ça vous... en tout cas, que ça branche. Bonjour Mimoun. Mimoun du 92, d'ailleurs. Ne nous trompons pas de Mimoun. En fait, moi, ce que je reproche au terme de réalité mixte, c'est que ce qu'il recoupe, c'est recoupé exactement par la réalité augmentée. C'est-à-dire que quand on prend... La définition de la réalité augmentée, elle s'applique à la réalité mixte aussi. La réalité augmentée, si on prend la définition, en tout cas telle qu'on la connaît depuis 10 ans, c'est voir des choses, genre on a des éléments qui sont réels, sur lesquels on va superposer du virtuel. Du virtuel, ça peut être aussi bien du texte que des éléments 3D. C'est pas le sujet, c'est la réalité augmentée dans les deux cas. Si on prend juste cette définition-là, la réalité mixte et la réalité augmentée, c'est la même chose, parce que définir ce qui vient se superposer dans un environnement réel, etc., enfin ce qui va être des objets en 3D, ce qui va être des objets qui sont simplement en superposition, en vrai c'est du pignolage, et pour le grand public ça ne parlera absolument pas. Du coup, la réalité mixte, nous, la manière dont on l'a décidé de la... Bon, réalité virtuelle, c'est facile. On est complètement plongé en immersion dans un autre monde. Ça, je pense que tout le monde comprend à peu près le principe. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà. La réalité augmentée, c'est du numérique dans notre vie. Donc, c'est... Alors, effectivement, il y a ça. Ça, c'est réalité augmentée un peu façon type Google Glass, par exemple. Et voilà. La réalité mixte, la manière dont on a choisi de le définir, c'est... On reprend un casque de réalité virtuelle, mais en améliorant suffisamment les caméras, la reconnaissance de mouvement, etc. Si votre casque est éteint, vous êtes dans le noir. Il n'y a pas d'écran transparent. Et c'est là où on a choisi de le distinguer de la réalité augmentée, qui, elle, très honnêtement, c'est... On a essayé de définir des termes pour que nous, on puisse les utiliser, que ça soit plus clair pour nous. Donc, je sais qu'il y a 50 définitions de la réalité virtuelle, 50 définitions de la réalité augmentée, 50 définitions de la réalité mixte. Mais nous, pour le coup, on a choisi de le définir. Ah oui, tiens, je l'ai dans les mains. Hop. Voilà. Ma petite médaille en bois. Nous, on a choisi de le définir avec le fait d'avoir un écran ou pas, ou alors juste du verre transparent. Mais ensuite, Mwendingo l'artiste. Je vais vous montrer les photos de Mwendingo. J'ai des photos de Mwendingo. J'ai le dossier là, vous voyez ici, là, concours photo, avec toutes les photos. Alors, qui ont été sélectionnés, qui n'ont pas été sélectionnés, qui auraient été loin d'être sélectionnés, et des photos qui, honnêtement, auraient pu passer en finale. Mais il fallait se limiter à 4, donc voilà. Vision Pro, eux, ils sont mixtes, car même si l'écran n'est pas transparent, ils permettent de voir l'extérieur sur l'écran. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on l'a défini ? Nous, on a choisi de dire que le Vision Pro est mixte parce que... Oui, c'est ça. Parce qu'on voit l'extérieur, mais que si on éteint le casque, c'est tout noir. Ça va être tout noir. Le premier qui a la ref a gagné. On a dit qu'on gardait ça. Je vous dirais pas quels sont... Bon, en même temps, tu les as toutes partagées quasiment sur Discord, donc... D'ailleurs, Mwendigo, je t'ai vu en replay sur l'émission, la FAQ d'arrêt sur image. Voilà. J'ai regardé ça après en diagonale et je voyais ton pseudo apparaître. Tu es absolument sur tous les streams de médias, c'est affolant. Bravo, Greux. Exactement. Merci Jinta, c'est ça que j'attendais. Mais le MetaQuest Pro ou HTC Vive XR Elite propose peu ou prou la même chose que le Vision Pro, non. Je ne suis pas suffisamment au point sur les différents modèles de casque. Je pense que oui. Probablement que oui. J'espère que ma question... Je ne sais plus quelle était ta question, par contre, pour le coup. Magnifique entrée de Junta. Bravo. Salut Mariol. Salut Geoffroy, salut tout le monde. Salut Junta. Ouais, Junta, c'était parfait pour le coup, son arrivée. Un jour, je bosserai pour des médias. Ah, c'est pas compliqué. Enfin, si, c'est compliqué. Très honnêtement, c'est compliqué. Mais ça se fait, la preuve. Voilà. Bon, Réalité Mix. Donc ça, c'est un dossier. Je vous le partage. Vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas, voilà. Nous, je sais que c'est un dossier qui va nous servir de référence, qu'on va mettre à jour régulièrement, qu'on va remonter régulièrement. C'est un dossier de Cassim, donc c'est un dossier de qualité, bien évidemment. En fait, ne suivant pas précisément la VR, j'ai écouté bêtement la conf Apple en me disant qu'il propose un truc 100% inédit, mais pas tant que ça, si. Non, pas tant que ça. Là où c'est inédit, ça va être en fait, typiquement sur les gestes, genre ce geste-là, et on reviendra sur ce geste-là juste après, ce geste-là qui je crois n'existe pas ou très peu chez des casques concurrents qui généralement ont besoin d'avoir des commandes, le fait justement d'avoir des caméras qui sont sous le casque, qui vont permettre de voir justement quand vous faites le geste alors que vous n'avez pas forcément les mains en face du casque. Et ensuite, ça va être d'une part la qualité qui est 4K sur chaque œil, ça pour le coup, c'est pas commun. Ça existe sur quelques modèles très haut de gamme, mais c'est pas commun. Et le dernier point, désolé pour le ban, Batik, enfin pour le, pas le ban, mais le message. Ça c'est pas commun. Et ensuite, ce qui est pas commun non plus, c'est la puissance de calcul qui est intégrée au casque, puisqu'en fait on va avoir un casque de VR qui est aussi puissant qu'un MacBook. Donc voilà, c'est plus sur ces aspects-là. Si je dis pas de bêtises, après, encore une fois, je suis pas hyper expert. On fait ce geste sur MetaQuest. Ok, Klimka. Et je sens que ça va être pas mal consulté quand vous avez parlé des futurs casques. C'est l'idée, hein. L'idée, c'est d'avoir un guide qui... comme la plupart des dossiers un peu explicatifs qu'on fait, qui sont là, or certes pour le moment de la publication, mais surtout pour pouvoir faire des liens vers ces guides-là, ou ces dossiers-là, pour expliquer aux gens. Donc voilà. Rappelle le geste de faire de l'autostop avec le pouce en l'air en Italie, surtout en Grèce, ça signifie... Ah d'accord. J'adorais la note d'humour sur la sélection des 4 photos finales. C'est là. Exactement. Bon, on va passer dessus directement. Et je vous invite à voter, là, vous êtes 321 dans le chat. N'hésitez pas à donner votre avis et à voter directement dans le sondage. Alors, concours photo, ça va être ici. Hop. Concours photo Frandroid. Vous le savez, la semaine dernière, on a mis en place le premier concours photo de Frandroid. C'est un concours photo qui aura lieu toutes les deux semaines. Pendant une semaine, les gens ont pu nous envoyer leurs propositions de photos, donc sur le thème du soleil. Le thème, c'était le soleil. Le sujet n'est pas forcément le soleil, mais en tout cas, le thème, c'était le soleil. Donc, les gens avaient une semaine pour nous envoyer leurs photos. Et là, du coup, les lecteurs ont une semaine pour voter pour leurs photos favorites parmi les 4 qui ont été présélectionnées. On a reçu, je crois, un peu plus d'une quarantaine, enfin un peu plus de 40 propositions. Et du coup, l'idée, c'est que les gens, maintenant, puissent choisir leurs photos préférées parmi les photos qui ont été envoyées par les différents candidats. On a des photos qui sont très chouettes. Et donc, on va faire le petit tour. Il y a la photo de Vincent, une photo de bateau. Un coucher de soleil en août 2022 au-dessus de la Méditerranée à Marseille. Photo qui est pour le coup très chouette, j'aime beaucoup la colorimétrie qui a été prise au Pixel 6 Pro, donc en plus avec un smartphone. Il n'y a pas de photo de Monigo, en tout cas elles n'ont pas été sélectionnées, désolé. Photo de Jules, photo à la plage, alors il ne m'a pas expliqué avec quoi il l'avait prise. J'ai vérifié quand même si la photo n'était pas une photo volée, enfin piquée sur internet, et si elle n'était pas non plus réservée à Paria. Mais la photo est très chouette, et c'est donc photo avec le soleil, le thème est là, etc. C'est plutôt cool. Oui, on peut voir les résultats, de toute façon, vous pouvez... Ça, on préfère généralement laisser les résultats affichés avant. Les 4 finalistes ont vraiment fait des super photos, je suis complètement d'accord. Donc ça, c'est une photo de Jules, qui nous explique plus qu'il avait, enfin pourquoi est-ce qu'il aime Frandroid, etc., que le contexte de la photo, mais bon. La photographie n'a pas été prise avec mon Pixel puisqu'elle est assez ancienne. Je crois qu'elle date, si je ne dis pas de bêtises, de août 2022 ou juillet 2022, en tout cas si je regarde. Elle a été éditée dans Lightroom, ça je peux vous le dire, et voilà. Photo d'Alexandre, une photo de statue que je trouve mystique. Et c'est pour ça que je faisais ça tout à l'heure, c'est que effectivement les gestes et sa légende à Alexandre, qui a beaucoup d'humour, il se trouve que la main est en réalité celle d'un utilisateur de l'Apple Vision Pro en train de faire défiler un menu. Je trouve ça, voilà, petite touche d'humour, c'est impeccable. Et les God Heads sur la photo d'Alexandre, exactement. C'est donc photo prise au Vietnam, et je trouve le coucher de soleil. Le seul truc qui est un poil dommage, c'est, alors je sais pas dans quel... Alors déjà ça aurait pu être retouché, supprimer peut-être un peu les arbres, les fougères pour avoir un truc qui soit plus central. je sais pas. Et peut-être le soleil, enfin repositionner un petit peu la photo pour avoir la main sous le soleil. Je sais pas encore une fois selon le cadre, parce que j'ai l'impression qu'il l'a fait au téléobjectif. Il l'a prise avec encore une fois un Pixel 7 Pro. Donc je sais pas dans quelle mesure il aurait pu se décaler un peu pour avoir, je sais pas, un autre positionnement. Mais elle est, je la trouve très jolie. Celle-là, ça n'a pas été ma sélection. C'était... Alors pour le coup, pour vous donner un peu le cadre, il y a une photo qui est choisie par un des chefs, donc Manu ou Omar. Il y a une photo qui est choisie par Titouan. Donc en l'occurrence, celle-là c'est Manu qui l'a choisie. Celle-là c'est Titouan qui l'a choisie. Celle-là c'est l'équipe vidéo, parce que l'équipe vidéo choisit également une photo. Et moi j'ai choisi celle-là, donc la photo de Julien. Photo qui a été prise au Canyon, à l'Antelope Canyon en mai 2023 avec le Galaxy Z Fold 4, et je la trouve folle. Le flair est hyper symétrique. Le flair, c'est ça, c'est les quand on parle de flair, c'est des lens flare. Et je trouve ça fou d'avoir du flair comme ça sur un smartphone. C'est vraiment le type de photo que je me serais attendu de voir avec un objectif Samyang, un objectif un peu Laowa, enfin des objectifs un peu exotiques, TT Artisan ou des trucs comme ça, sur un vrai boîtier. Et le fait d'avoir ça sur un smartphone, la colorimétrie est complètement différente aussi. On n'est pas du tout sur des teintes chaudes, on a du violet, on a du bleu, on a tout ça. Moi, je l'aime beaucoup, celle-là. Voilà. Justement, je me demandais si on avait le droit aux retouches discrètes. T'as le droit aux retouches discrètes ou pas discrètes ? Pourquoi ? Et je crois qu'on l'avait indiqué dans l'article. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça va être très compliqué pour moi de vérifier si les photos sont retouchées ou pas. Donc, et qu'en vrai, la limite entre développement photo sur Lightroom pour déboucher les noirs ou les blancs, augmenter le contraste ou modifier la colorimétrie et retouche, en vrai, la limite peut être parfois un peu floue. Donc voilà. Un des chefs, Manu Omar, et la rumeur dit que bientôt on dira que Omar. Certes, j'ai voté pour elle, ouais, moi aussi. Bah, du coup, je l'ai sélectionné, donc j'ai voté pour elle aussi. Celle-là, ouais, je la trouve vraiment top. J'avais pas fait gaffe, mais effectivement, il y a quelques soucis au niveau de. Les petites taches qui sont pas hyper esthétiques. Ah non, qui sont pas hyper esthétiques, là. Mais voilà. Moi, j'aime beaucoup cette image-là. Je la trouve vraiment très chouette. Et donc, prise au Galaxy Z Fold 4 en plus, le soleil percé à travers le canyon. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'en vrai, sur les 4 photos, on en a 3 qui sont prises au smartphone. Au moins 3 qui sont prises au smartphone. Celle d'Alexandre, je sais pas avec quoi il a pris. Celle de Jules, je sais pas avec quoi il a prise. Et donc, vous pouvez voter dans le sondage juste en dessous. Sachant que pour l'instant, c'est la photo de Jules, la photo de plage qui est en tête. Mais vous avez jusqu'à mardi prochain, à midi, pour voter. Et sachant que dès mercredi prochain, il y aura un nouveau thème qui vous sera proposé. Vous aurez une semaine pour mettre en avant vos photos, pour nous les envoyer. Et nous, du coup, on sélectionnera 4 photos, etc. Et voilà, c'est plutôt cool. Omar à la chef, ça doit être bon. Elle est vraiment classe. Et une photo au fold. Vas-y, je vote pour cet homme légendaire. Ouais, il y a une photo au fold. Celle-là est prise au fold. Et vraiment, enfin, la chance en plus qu'il faut avoir pour avoir le moment où le soleil passe là-dedans. On a des formes qui sont en plus. J'aime beaucoup la compo parce que déjà, on est quasi symétrique. Alors, pas exactement, mais le flair est quasiment symétrique. On a un... Comment ça s'appelle ? On a des formes qui sont hyper organiques dans le canyon. Mais avec un truc symétrique, très géométrique sur le reste, enfin sur le flair et tout ça. Le soleil aussi qui fait très, très étoilé. On voit vraiment les rayons. Voilà. Cette photo, j'imagine que c'est le fond d'écran de Julien, mais elle est vraiment, vraiment cool. Prochain thème, l'hiver. Non. Non, prochain thème, on sera un peu plus abstrait. Après, vous avez le droit d'utiliser des anciennes photos. Hein. Là, en l'occurrence, comme le dit Julien, la photo a été prise mi-mai 2023. Donc il y a quelques mois, vous pouvez très bien prendre des anciennes photos si jamais elles correspondent au thème. Je vais vous montrer quelques autres photos qu'on a reçues qui sont chouettes et qui auraient pu passer à la sélection. Alors celle-là magnifique. On a aussi on a quoi d'autre comme photo magnifique. Alors celle-là en vrai, de toute façon celle-là tu l'avais déjà partagée sur le Discord Mwendingo, elle est très cool. Le problème qui manque c'est en termes de netteté. On est un peu trop flou sur la mise au point et pas aurait gagné peut-être à être un peu ailleurs. Et avoir un sujet sur une photo, c'est toujours plus sympa, notamment sur les photos de paysage. Photo de drone, ça compte tout à fait. L'idée, c'est aussi de montrer que peu importe le type d'appareil avec lequel on va prendre une photo, on peut faire des photos jolies à partir du moment où le cadrage est cool, la composition est cool, la lumière est bien mise en avant et respectée. Et voilà. C'est un affaire photo numérique de 3 millions de pieds. Ah oui, effectivement. Toi, t'as dû faire un tour sur Google Photo en tapant seul pour retrouver toutes tes photos du soleil. Genre ça. Celle-là est sympa. Mais pareil, ça manque un peu de sujet. pour le coup. Donc voilà, ça c'était les photos de Mwendigo. Ça c'est une photo de Robin qui a participé sous pseudo, pour pas qu'on sache que c'était lui. De toute façon, il n'y a rien à gagner, donc j'ai des collègues qui étaient là en mode « je veux participer », etc. Je fais « ok, mais je veux pas savoir que c'est toi ». Et je veux pas que tu sois l'un des jurés, donc forcément. Donc ni Manu, ni Omar, ni Titouan, ni moi, ni Arnaud, parce que c'est Arnaud le chef de l'équipe vidéo, ne peuvent participer parce que ils sauront eux-mêmes que c'est eux les trucs. L'idée, c'est quand même avant tout que les viewers ou les lecteurs puissent participer. Non, il l'a prise en mars dernier, en revenant du Mobile World Congress, puisque c'est une photo de Barcelone, de nuit. On se demande où bosse Mwendigo. Un Canon PowerShot A70. Ah oui. Ok. Donc, celle-là, pour le coup, on l'a pas sélectionnée, mais elle aurait pu. Une autre photo qui était prise au Pixel, c'est celle-là, et pour laquelle on a un peu hésité. Celle-là est plutôt cool. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Pareil, le fait d'avoir une colorimétrie qui change un peu du... On a eu, enfin, vous le voyez, hein, énormément de couchers de soleil. Mais là, justement, en fait, et donc des couleurs qui sont très rouges, très chaudes, etc. Celle-là est chouette aussi. Pareil, prise au pixel. Mais le fait d'avoir des teintes un peu différentes, c'était vachement sympa. Là, moi, ce que... Pourquoi je ne l'ai pas sélectionné déjà ? Parce que j'aimais beaucoup celle du Canon. Et parce que éventuellement, je trouve que les ombres auraient gagné à être un peu débouchées avec de la retouche pour justement avoir un peu plus de détails là-dedans. Peut-être un sujet, et ça aurait été parfait. Mais l'atmosphère, effectivement, elle est incroyable. Le soleil est superbe. Celle-là, c'est pareil. Là, je trouve juste dommage que le chien soit pas plus mis en avant. Parce que pareil, elle a un potentiel qui est assez sympa. Le flair est plutôt cool. Et le côté brouillard est vachement sympa sur l'arrière-plan aussi. Et une... Alors celle-là, pareil, on a pas mal hésité aussi. Là, c'est le côté peut-être un poil trop centré, manque de sujet, mais il y a un choix de composition qui est plutôt sympa, et une qu'on avait beaucoup aimée, avec laquelle on a beaucoup hésité. Alors déjà, celle-là, on a beaucoup aimé, mais elle fait un poil trop pub, peut-être. Le choix est sympa. On est un peu sur la même ambiance que la photo que celle-là, en fait, puisqu'on est vraiment à ras le sable sur un coucher de soleil. Donc un choix de composition et de cadrage qui est un peu original, au moins on n'est pas à hauteur d'homme, quoi. Et une qu'on avait, voilà, celle-là on avait beaucoup aimé aussi. Celle-là, il y a eu une grosse hésitation avec le pôle vidéo, enfin chez le pôle vidéo, entre celle-là et celle avec la main, justement. Les silhouettes sont nettes, quasiment nettes, voici elles sont nettes. Et il y a un choix de cadrage, règle des deux tiers, etc. Enfin, celle-là est vraiment très cool. C'est dommage qu'elle soit pas passée, parce que pour le coup, c'est une des seules où on avait des sujets humains. Donc voilà, et ça raconte un truc. Mais comme quoi, il y avait honnêtement, il y avait des candidats qui sont bien démenés, des photos qui sont un peu chouettes, enfin qui étaient vraiment chouettes, quoi. Donc voilà, prochain concours. Or, d'ici la semaine prochaine, encore une fois, n'hésitez pas à voter pour votre photo favorite. Et le prochain concours, c'est dans une semaine sur un autre thème que je ne vais pas vous divulguer dès maintenant. Mais voilà. L'Arc de Triomphe aussi. Alors, l'Arc de Triomphe était sympa. Le seul truc que je lui reprocherais, il est où déjà l'Arc de Triomphe ? C'est... Ouais, elle est sympa. Elle est un poil sous-exposée. En fait, je pense qu'un recadrage vraiment juste comme ça, avec un plus gros zoom, aurait pu être sympa si c'était jouable au niveau de la mise au point. Enfin, au niveau de la définition. Et elle est peut-être un peu trop... Genre, voilà, faire un truc comme ça. Un truc comme ça, ça aurait été pas mal. Ou alors, vraiment juste, je sais pas. En fait, elle est un poil trop sombre et elle est pas droite, surtout. Et on le voit, c'est qu'elle penche un peu sur la gauche. Mais sans ça, effectivement, il y avait une très bonne idée. Il y avait une très bonne idée et c'est original aussi. Le choix hyper contrasté comme ça. Donc voilà. Eh ben écoutez, je pense que pour ce sujet-là, on est bon. Encore une fois, je vous invite à voter. Vous avez jusqu'à mardi prochain à midi, et le soir, dans l'après-midi, on mettra à jour l'article. Moi, bon, je serai en vacances, donc c'est Manu qui va s'en occuper, ou Omar. Donc on mettra à jour l'article, et avec le grand gagnant entre les quatre, entre Jules, Julien, Vincent et Alexandre. Que des hommes, d'ailleurs. Après, on a un lectorat qui est essentiellement masculin, mais pour le coup, ouais, que des hommes. Dommage. Je vérifie là où ça en est, s'il y a eu d'autres votes depuis tout à l'heure. Ah, bien. Ouais, c'est vraiment Jules, en plus, qui prend la tendance. Hein. C'est cette photo-là. Et pareil, j'étais surpris sur les trois photos. Après, c'est du smartphone, donc c'est peut-être plus logique sur du smartphone où les gens ont l'habitude de prendre leurs photos comme ça plutôt que comme ça. Mais on a trois photos qui sont prises en... Enfin, sur les quatre, on a trois qui sont prises en mode paysage, donc à la verticale. Et une seule qui est à l'horizontale, c'est celle-là. En tout cas, c'est sympa les résultats de chacun. Ouais, non, il y a des photos qui sont vraiment très chouettes. Bon, on peut passer à la suite. Est-ce que je vous fais le petit teasing dès maintenant ? Est-ce que ça va s'afficher ? Ça va être joli, hein ? Ces écrans vont être... C'est le studio qui est aménagé. Donc c'est pour ça que cet après-midi, il n'y aura pas de unlock, parce qu'ils sont encore en train de configurer tout ça. C'était gardé secret jusque-là ? Je vous ai rien dit. Il me semble qu'ils voulaient laisser la découverte en live. Ah ! Vous avez rien vu. Vous avez rien vu du tout. Vous avez rien vu du tout. Et en vrai, ça rend pas honneur à ce que c'est en direct, parce que voilà. Mais bon, ça va être sympa. Et c'est pour ça que du coup, il n'y a pas d'unlock cet après-midi, puisque le studio est encore en travaux et il y a encore des finitions à faire. Donc voilà. Mais ça va être joli. Ça va être très joli. Et puis de toute façon, oui, vous verrez ça entre une photo affichée sur mon écran, etc., ou le voir directement en fond avec la caméra principale et en grand. Pas pareil. Voilà. Le clip qui va partir... Oh, je pense que Manu, il s'en fout. En vrai, c'est plus Arnaud que ça pourrait déranger. Mais je pense que le montrer comme ça, juste deux secondes aux viewers, il n'y a pas de souci. On n'a pas vu quoi. Voilà, c'est ça. On va faire style WA magnifique. Exactement. Mais en vrai, en plus, vraiment, vous n'avez rien vu par rapport à ce que ça rend en vrai. On peut passer sur Nothing. Nothing que Titouan a pu interviewer. Nothing que Titouan a pu interviewer. Il s'est entretenu pendant un bon moment avec Akis Evangelidis, donc l'un des cofondateurs de Nothing, qui nous a parlé des fuites du Nothing Phone 2. Tout ce que je peux dire, c'est que les leaks sont faux. Ça ne sera pas comme ça. Il s'agit de faux rendus. Donc ça, d'après lui, ce ne sera pas le Nothing Phone 2. Ce qui est rare, hein, parce que Unleaks généralement se plante pas, ou très rarement. Mais d'après lui, le Nothing Phone 2 ne ressemblera pas à ça. À quoi s'attendre pour le Nothing Phone 2 ? Nous allons bien sûr profiter pour interroger Akis Evangelidis sur le futur du Nothing Phone 2 en lui demandant pourquoi avoir commencé à montrer la lettre d'enregistrement vidéo comme premier élément. C'est juste cool, lâche le cofondateur en riant. J'aime vraiment beaucoup l'évolution de la lettre, ça fait beaucoup mieux abouti, c'est aussi beaucoup plus doux en termes de design et je pense que c'est une bonne représentation de l'amélioration générale que vous pouvez attendre sur le Phone 2, sur le fait d'avoir un design plus raffiné. Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin, on avait juste besoin d'un beau teaser à afficher, à publier. Il ajoute, en tant que nouvelle marque, nous ne pouvons pas être compétitifs en termes de budget, nous devons donc jouer le jeu. Pourquoi insister autant sur le mot premium alors que vous disiez alors déjà que le Phone 1 était premium ? La marque s'amuse à répéter sans cesse que pour teaser son deuxième smartphone qu'il est premium. Alors même que selon Carl Pei, le Nothing Phone 1 était déjà un premium. Depuis que nous avons commencé Nothing, nous avons toujours eu cette attente du point de vue du produit final, donc je suppose que c'est la raison pour laquelle nous classons par défaut le produit dans la catégorie premium. Je pense donc qu'avec le Phone 1, dans la mesure de nos capacités et de nos ressources du moment, il s'agissait du smartphone le plus haut de gamme que nous étions capables de mettre sur le marché. La marque a beaucoup évolué depuis l'année dernière. La dernière fois, nous essayons de créer une entreprise en même temps que nous essayons de créer un produit, ce qui présente beaucoup de challenges. Nous n'avions pas un expert pour chaque point particulier du développement d'un tel produit, contrairement à maintenant. Plus de 750 000 ventes du Nothing Phone 1 à nos compteurs, elle a doublé son équipe d'ingénieurs en passant de 200 à 400. Plus nous avons amélioré nos capacités internes, plus nous avons réalisé que nous pouvions faire beaucoup mieux, mieux planifier, faire les choses beaucoup plus à l'avance. Notre but était aussi de ne pas nous retrouver comme l'année dernière, 5 mois avant le lancement, et réaliser que nous ne serions pas en mesure de créer notre propre logiciel en interne. Donc le fait que Nothing considère ces deux téléphones comme premium est davantage lié à nos opérations et nos capacités en termes de meilleurs produits que nous pouvons livrer. Je pense que ce qui était premium pour nous il y a un an en tant qu'entreprise est très différent de ce qui est premium aujourd'hui et de ce que nous pouvons faire à un smartphone par an. Bref, on a pas mal de sujets là-dessus, donc c'est plutôt cool. Et l'interview est vachement sympa. Akis nous fait une Barbara Streisand. Les leaks des rendus ou les leaks de la compote, de la compo, des caractéristiques, je ne sais pas. Je pense que c'est essentiellement les leaks de rendu dont il parle. Après, il n'y avait pas trop de modifs par rapport au premier. Ouais. C'est le mec qui était dans une vidéo de PP pour le lancement des écouteurs. Exactement. Ça a été... Tu connais pas, c'est ça. C'est grosso modo, ça a été le responsable France de OnePlus pendant un moment, puis le responsable Europe de OnePlus, puis l'un des cofondateurs. Puis je crois qu'il est monté au marketing au siège chez OnePlus. Notamment, il a aidé au lancement de la gamme OnePlus Nord à l'époque. Et ensuite, il a cofondé Nothing. Donc, il est parti de OnePlus en même temps que Carl Pei. Et il a fondé Nothing avec Carl Pei. C'est l'un des cofondateurs. La question du smartphone par an, alors voilà. Au moment de l'annonce du Nothing Phone 1, la marque était tout feu tout flamme pour expliquer qu'elle ne ferait rien comme les autres. On se souvient distinctement du fondateur critiquant les marques sortant un téléphone par an sans aucun changement, sauf que Nothing semble être parti pour faire la même chose. Nous ne nous sommes jamais engagés à ne pas sortir un téléphone par an. Ce que critiquait Nothing, c'était surtout les itérations qui n'ont pas de sens, qui sortent juste pour rester pertinents sur le marché. Et ici, nous pensons que Nothing Phone 2 est une itération qui a vraiment du sens. à Kiss Evangelidis donne ensuite quelques détails sur le futur du Phone 2. Quand nous comparons là où nous étions une année et demie, quand nous avons commencé à travailler sur le Phone 1, et ce que nous pouvons apporter là, c'est en réalité une grande amélioration. Tout devrait être mieux en commençant par la caméra, en passant par la batterie, l'écran, à l'expérience logicielle. Chaque interaction avec le Phone 2 est clairement un step-up par rapport à la génération précédente. La marque nous indique avoir particulièrement soigné la partie logicielle cette année. En effet, au moment de la sortie du Phone 1, elle avait été forcée d'externaliser le développement de Nothing OS, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Nothing OS a basiquement été reconstruit depuis zéro et devrait apporter plus de richesse par rapport à l'expérience Android de base. Il avait présenté le OnePlus 9 à Londres. Oui, je me rappelle, j'y étais d'ailleurs. À Londres, dans la salle de presse. Et c'était juste avant que j'arrive chez Frandroid. Genre vraiment, c'était genre 2 mois avant, de mémoire. J'ai fait le voyage avec Manu, du coup, puisque Manu a fait le voyage. Et on avait enchaîné à l'époque, je crois que c'était Honor et OnePlus, puisque les deux avaient fait leur lancement à Londres à une journée d'intervalle. C'était folklore. Merci pour le follow à Charfon, merci également pour le follow à Junkling tout à l'heure, mais si à Kaz75 et à Brave972 qui date un peu plus. Il y a 12 heures, mais merci d'avoir follow alors que la chaîne était a priori off. Comparer l'upgrade entre l'iPhone 13 et iPhone 14 et Nothing Phone 1 et 2 n'a pas trop de sens. Nothing fait de belles avancées. Oui, mais en même temps, Nothing part d'un seul smartphone. Donc la question, c'est est-ce qu'ils arriveront à continuer à sortir un smartphone par an en continuant à faire des avancées aussi significatives dans 3 ans, par exemple. Et bonjour à Epsilon. J'espère que ça va bien. On est ensemble encore pendant 50 minutes, un truc comme ça. On peut avoir un phone par an, finalement, car fatalement, ça évolue vite en ce moment. Ouais, bah ça évolue vite pour Nothing parce qu'ils partent quasiment de zéro. Sachant que le marché aujourd'hui évolue quand même très très peu. Est-ce qu'ils arriveront à évoluer autant dans 2 ans? Je suis pas sûr. C'est là où ça va être un peu plus compliqué. Commence à faire beau dans le sud. Ouais, il fait beau à Paris aussi. Hein. Il fait chaud là. En plus, pour vous éviter les bruits, je vais fermer la fenêtre. C'est compliqué. Donc voilà pour Nothing Phone 2. Je vais faire un petit tour d'actu, comme d'hab, pour vérifier s'il y a d'autres choses qui sont tombées entre temps. Allez, un petit VTT, ça fera plaisir à Greg. Mais avant tout ça, PlayStation Plus. Les jeux PS5 arrivent enfin en cloud gaming, mais c'est toujours pas ça. Pour fêter le premier anniversaire de son nouveau PlayStation Plus, Sony renforce son offre avec du cloud gaming intégrant des jeux PS5, une bonne nouvelle accompagnée de petites lignes. Le nouveau PlayStation Plus a un an, il y a 12 mois, Sony lançait sa réponse au Xbox Game Pass avec une nouvelle offre PlayStation Plus Essential, Extra ou Premium qui faisait disparaître PlayStation Now, son abonnement dédié au cloud gaming. Pour Sony, le premier bilan de cette opération est plutôt positif. La firme a recommencé à recruter de nouveaux abonnés et a surtout converti des abonnés de PlayStation Plus Essential vers des offres plus chères. La firme aimerait renforcer cette mécanique en améliorant son PlayStation Plus Premium. Les abonnés au PlayStation Plus Premium bénéficient notamment d'un accès aux services de streaming de Sony grâce à du cloud gaming seulement. Cette offre n'avait pas évolué sur le plan technique. Autrement dit, il n'était possible de streamer des jeux PS4 du catalogue sur PC ou sur console. Pire, la compatibilité des sauvegardes PS4 et PS5 faisait qu'il était...
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Il est impossible de jouer au même jeu en cloud gaming que sur une PS5 en reprenant sa progression. Ouais, ça la foutait un peu mal, quoi. Ces problèmes, Sony annonce les corriger en commençant à tester le streaming de jeux PS5 sur son service de cloud gaming. Cela inclut les jeux du catalogue PlayStation Plus, mais aussi les versions d'essai de jeux et les jeux PS5 possédés par le joueur s'ils sont compatibles cloud gaming. Malheureusement, avec cet ajout bienvenu, Sony semble aussi ajouter des problèmes supplémentaires. En effet, le communiqué de la firme mentionne seulement la possibilité de streamer un jeu PS5 sur une PS5. Le cloud gaming de PlayStation n'est pas proposé sur le web ou sur mobile, mais un client PC était proposé jusque-là. Pour Sony, il semble qu'il soit seulement question de pouvoir tester un jeu en cloud gaming sur PS5 avant de finir par le télécharger et le lancer. C'est localement. De plus, Sony ne donne aucune date concernant l'ajout du cloud gaming PS5. La firme se contente d'indiquer qu'ils n'en sont qu'aux premières étapes de test de la fonction. Ah, c'est pas incroyable, hein ? C'est pas incroyable. On le fait après, Mondingo, l'artiste sur l'Europe, t'inquiète pas. J'y vais, bonne fin de live. Merci, Batix. Bonne matinée, bonne journée à toi. Ça va chauffer sous peu ici. Ouais, là, on est à 23 degrés. En vrai, ce serait le moment d'aérer, théoriquement. 23 degrés à Paris. Je vais aérer après le live, histoire de profiter un tout petit peu de la fraîcheur du matin avant cet après-midi. Voilà, donc c'est un peu compliqué, là, pour le cloud gaming sur PS5. Mais voilà, on va faire la news que Mondingo voulait qu'on fasse, parce que on va suivre Mondingo, hein. Excellente nouvelle, l'Union Européenne va imposer que les batteries de smartphones et des ordinateurs portables soient faciles à remplacer. L'UE prône des batteries remplaçables. Le Parlement européen a voté en faveur d'une directive visant à instaurer une économie circulaire dans l'industrie électronique. Cette mesure, soutenue par une large majorité de votes, rendra les batteries d'appareils électroniques facilement remplaçables par les consommateurs et exige que d'ici à 2031, au moins 80% du lithium et 95% d'autres matériaux utilisés dans les batteries usagées soient recyclés. C'est une très bonne nouvelle. On rappelle que les batteries, ça pollue. Si on peut les remplacer et éviter au passage de jeter un smartphone juste parce que la batterie est morte ou qu'elle a perdu une grosse partie de ses capacités, voilà, si on peut juste remplacer la batterie, ce sera quand même beaucoup plus simple. Donc voilà. Le Parlement européen a fait un grand pas en avant vers l'instauration d'une économie circulaire dans l'industrie électronique par un vote à une large majorité, 587 pour, 9 contre et 20 abstentions. L'institution a validé une directive audacieuse visant à rendre les batteries des appareils électroniques facilement remplaçables par les consommateurs. Cette initiative législative est une réponse directe à une problématique de longue date, celle de l'obsolescence programmée. Actuellement, très peu de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et même d'autres appareils tels que les casques Bluetooth, les enceintes sans fil ou les lecteurs de musique permettent de remplacer aisément la batterie. Les boîtiers des appareils sont souvent difficiles à ouvrir et les batteries sont généralement solidement fixées avec de la colle. La formule est directe et sans appel, le consommateur doit être en mesure d'intervenir lui-même sur l'appareil qu'il a acquis. En s'attaquant à la question de la remplaçabilité des batteries, le Parlement européen remet en question le design et la conception des appareils électroniques tels que nous les connaissons. Cela pourrait déboucher sur une transformation majeure de l'industrie électronique. Les fabricants seront contraints de repenser leurs appareils pour les rendre plus durables en facilitant notamment le remplacement des batteries. Sujet très sensible, effectivement. La directive ne s'arrête pas là. Dans une optique plus large de transition vers une économie circulaire, le règlement stipule également qu'à partir de 2031, au moins 80% du lithium utilisé et 95% du cobalt, du cuivre, du plomb et du nickel utilisés dans les batteries usagées doivent être récupérés par recyclage. Le recyclage des métaux contenu dans les batteries est un enjeu majeur. La quantité de lithium, cobalt, cuivre, plomb et nickel présents dans les appareils électroniques sont non négligeables et constituent une source potentielle de pollution environnementale. En visant à récupérer et réutiliser ces matériaux, la directive européenne encourage un modèle économique plus respectueux de l'environnement. Et au passage, on a une grosse partie aussi de ces matériaux qui peuvent être récupérés dans des zones très peu éthiques, par des enfants, dans des exploitations minières qui sont craignos, parfois dans la zone de guerre. Donc c'est très compliqué. Pour le coup, notamment pour le cobalt. Cette initiative est susceptible de donner un coup d'accélérateur aux technologies de recyclage. Les entreprises spécialisées dans le recyclage des métaux pourraient connaître un boom, tandis que les fabricants d'appareils électroniques seront encouragés à concevoir des produits plus respectueux de l'environnement en intégrant le cycle de vie complet des matériaux utilisés. Cette directive est sans nul doute un signal fort envoyé par le Parlement européen. Donc en gros, quid de l'étanchéité ? Ça va être plus compliqué sur l'étanchéité forcément, mais après, tu peux avoir des systèmes qui sont quand même relativement étanches, qui fonctionnent bien, etc. Enfin, je pense que ça va être un défi pour les constructeurs, mais voilà, tu peux mettre un système de vis et ensuite tu resserres, je sais pas. Je fais confiance aux constructeurs, hein. Typiquement, quand on voit Sony sur ses smartphones, Sony propose toujours des smartphones hyper étanches, alors que pourtant, ils ont des lecteurs de cartes qui sont accessibles assez facilement sur le côté. Je pense que tu peux faire des trucs. Petit rappel, batterie amovible ne veut pas dire smartphone plus épais. On avait des smartphones étanches à batterie amovible comme le S5 et le Z3 de Sony. Oui. Exactement. Ils dorment pas dehors non plus, froid, chaud. Je pense que c'est mieux de pouvoir la batterie et garder les téléphones plus longtemps que de garantir l'étanchéité. Je pense aussi. Je pense que la question environnementale, à mon sens, après ce n'est que mon avis, mais je pense que la question environnementale est plus importante que le fait de savoir si on peut mettre son téléphone dans l'eau. Par contre, 2031, c'est loin. Ouais, mais il faut le temps de toute façon que les industriels puissent s'adapter, donc c'est plutôt logique, en vrai. Utiliser le « c'est les enfants qui vont chercher le cobalt » est un peu facile. Malheureusement, c'est comme ça pour tous les produits, que ce soit tech ou textile. Oui, non, mais je ne dis pas. Mais c'est pas pour autant que c'est faux. Or, Sony, j'ai trempé un téléphone étanche dans 20 cm d'eau. Ils ont refusé de prendre la garantie en disant mauvaise utilisation. Ça éviterait que nos téléphones qu'on utilise ne soient pas gonflés. Ne gonflent pas. 8 ans pour s'adapter. Ouais, bah, il faut créer une filière aussi. Hein. Toute une filière qui va permettre, notamment, sur garantir l'étanchéité, enfin, le recyclage des batteries et tout ça. Quid de l'obsolescence logicielle ? Est-ce qu'elle existe vraiment ? Ou est-ce que c'est simplement une obsolescence parce que les produits sont meilleurs et que les applications bah, vont être plus performantes et donc du coup forcément sur les vieux appareils ça va moins bien tourner ? Pouvoir utiliser son vieux téléphone comme autre chose, ça serait bien sympa, perso comme télécommande domotique ou caméra de surveillance, plein de possibilités d'utilisation même quand il semble dépassé. Ouais, ou en webcam. Hein. Franchement, utiliser un smartphone en webcam, c'est un truc que j'ai fait pendant un moment, ça marchait hyper bien. Les téléphones qui gonflent dans le garage, rien à voir avec un téléphone. Les voitures qui gonflent dans le garage, rien à voir avec un téléphone. Ok. Il y a une vidéo de Robin sur le fait d'installer Android 12 sur un Nexus 5. Oui, je l'ai vu, moi, Nico. Ou GPS de voiture aussi, c'est vrai. Voilà pour la news sur les batteries. Les batteries, alors qui concernent aussi bien les téléphones, évidemment, que les PC portables. Hein. Et sur les PC portables, aller changer la batterie sur un PC comme aussi fin que ça, pas évident. Sur vos vieux téléphones, allumez-les de temps en temps pour que les batteries ne gonflent pas. Alors moi, j'ai jamais eu ce souci-là. Pour le coup, en plus, j'en ai gardé, évidemment, j'en ai gardé pas mal. Mais j'ai des téléphones qui sont éteints depuis un bon moment et qui, pour le coup, n'ont pas encore gonflé. Alors je dis pas encore. Hein. Typiquement, voilà, je vous le montre toutes les semaines. Hein. L'Essential Phone, il n'a pas gonflé du tout. Il est toujours aussi beau. On avait bien des lecteurs CD à rack externe. Hop là, c'est vrai, ça gonfle quand ça reste vide. Ok. Après, certains téléphones sont très solides. Oui, c'est vrai que là, du coup, en plus, sur le Essential, c'est de la céramique à l'arrière. Donc, j'imagine qu'en plus, il doit être bien collé et tout ça. Et c'est du titane pour le cadre. Donc, voilà. Imagine le jour où la batterie ne tiendra plus. Si le changement de batterie n'est pas possible, le PC sera changé. Bah oui. C'est exactement le problème que j'ai eu sur mon ancien PC portable. C'est pour ça que là, celui que j'utilise maintenant, enfin, celui que la boîte a racheté pour moi, c'est un Lenovo. Je sais pas si vous avez déjà fait gaffe, mais tous les autres collègues dans la boîte qui sont sur Windows ont un Dell. Et en fait, Dell, moi, la batterie ne fonctionnait plus, elle était même plus reconnue. Donc, et le suivi est pas suffisamment bon. Donc finalement, on a changé de modèle, on a changé de marque. Après, en vrai, il commence à dater. Il avait 6 ans, ce qui fait un peu long pour une utilisation professionnelle. J'ai acheté ces HTC Desire éteint depuis 15 ans environ, il n'a pas gonflé. Bah voilà, HTC qualité aussi. Galaxy S, il a toujours pas gonflé. Eh ben, je croise les doigts pour vous. C'est pour ça que j'ai peur pour les voitures de garage. Ouais. Est-ce que c'est la chaleur qui les fait gonfler ou pas ? C'est pas la chaleur. Hein. Enfin, ou alors une grosse chaleur, mais 30 degrés, je pense que ça passe. Écran HS. Ok. On va passer à la suite. Alexa qui lance 3 nouveaux Echo. Je crois qu'ils avaient déjà été plus ou moins annoncés. Mais voilà, on a un nouveau Echo Pop, petite enceinte, avec de la couleur. C'est incroyable. Est-ce qu'il y a fait de la lumière vraiment partout comme ça, ou est-ce que c'est juste une illusion d'optique ? Je vais voir juste sur la page Amazon, mais... Non, il n'y a pas de lumière. Ok, non, c'est juste la photo qui est un peu chelou. Là, on dirait qu'elle est rétroéclairée, enfin, qu'elle émet de la lumière elle-même, qu'elle est fluo. On est d'accord, hein, c'est pas que moi, c'est la photo qui est chelou. Quelle couleur c'est ? On voit pas les différentes teintes. C'est très bizarre, parce qu'en vrai, c'est quelle couleur ? Elle vient d'où, cette photo ? C'est très bizarre. Phosphorescente, pas fluo, oui. Est-ce qu'elle est phosphorescente ? J'ai pas l'impression pourtant. L'Echo Pop peut se voir accompagné par 2 accessoires dédiés. Ah ! Où sont silicone ? Ok. Ah oui ! Bleu, gris, orange, violet, lila, rouge et un étonnant phosphorescent qui brille dans le noir. Donc c'est bien ça. Donc il y a une housse en silicone phosphorescente. Et second accessoire, une fixation murale. En fait, il suffisait que je lise l'article. Je le sais. Echo Show 5, 3ème génération, écran connecté plus rapide et sonore, donc écran connecté classique avec un écran de 5 pouces, j'imagine. Et Echo Auto 2, donc le principe, c'est d'apporter Alexa dans votre automobile, voilà, tout simplement. Ça va pouvoir se coller dans l'habitacle et se connecter à votre système multimédia en USB ou par une prise jack. Ils disent qu'on peut regarder Twitch sur les Echo, ça m'étonne pas parce que Twitch ça appartient à Amazon de toute façon, donc je pense qu'il n'y a pas de tout. Si tu peux regarder Prime Vidéo, il n'y a pas de raison que tu puisses pas regarder tout. Preuve que personne n'avait lu l'article. Oui, c'est vrai que dans le chat, vous y alliez tous de votre suggestion, machin. Et bah c'est bien, on lit l'article ensemble. Voilà, pour le coup. T'as fait comme les lecteurs, ça lit le titre, ça voit une image et ça commente. Oui, j'ai pas commenté. Perso, j'ai des cailloux plastiques phosphorescents, j'ai peint mes boutons domotiques phosphorescents, ça m'évite de m'éclater le pied dans les coins la nuit. Et boutons vite repérables, pas besoin de tout allumer. C'est malin. En vrai, c'est vrai que la peinture phosphorescente, ça marche bien. J'aime beaucoup les Warhammer, je sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'aime beaucoup les Warhammer. Et je regarde pas mal de chaînes YouTube Warhammer. Et je me demande si quelqu'un a déjà peint des Warhammer avec de la, Et de la peinture phosphorescente. C'est neon painting, je crois, en anglais, ça s'appelle. Ah, ça a déjà été fait. Ça a déjà été plus ou moins fait. Toxic le conte. J'en ai déjà parlé, ok. Oui, je vous en ai déjà parlé sur la sortie d'un personnage que j'attendais. Pour jouer des Nighthaunt. Bah, en plus, ouais, pour jouer des Nighthaunt, donc des fantômes dans l'univers de Warhammer Age of Sigmar, ça peut être. C'est celui qui venait d'être annoncé, les frères de je ne sais plus quel. Oui! Bah, oui. Lionel Johnson, non, bah, en fait, je peins pas. Je peins très peu, mais du coup, je l'ai pas acheté. Mais j'attends les bouquins. Ah, la figurine, elle est cool comme ça. J'aime beaucoup le côté très flou. Je déco 2 secondes du live. Je reviens. On est passé d'un assistant du Warhammer sur YouTube. Que s'est-il passé ? On parlait de phosphorescence. C'est pour ça. On parlait de Amazon qui a annoncé une nouvelle enceinte avec une coque en silicone phosphorescente. Et du coup, je suis parti sur... On a parlé de peinture phosphorescente. Et je me suis demandé si il y avait des figurines qui avaient déjà été peintes avec de la peinture phosphorescente. Comment ça se fait que vous n'avez pas de guide d'achat et de test de caméra pour voiture ? On a quelques tests. Parce que c'est compliqué à tester. On a quelques tests. Moi, je sais que j'avais relu un test de Yazid sur... comment ça s'appelle les caméras pour voiture déjà ? Dashcam. Voilà, j'avais relu le test de la Nextbase 622GW. Et qu'en vrai, il y a assez peu de dashcam qui sont vraiment convaincantes. On est passé par la phosphorescence. En 2001, le copain d'une amie de Paris m'avait proposé des Warhammer gratis et le kit peinture. Il bossait dans une des boutiques en rentrant dans ma province. Des amis m'ont dit qu'il me proposait pour l'équivalent de 300€ de matos. Ça coûte très très cher. Moi qui m'y connaissais rien, avait refusé pour pas le déranger à faire un aller-retour avec son taf. Ah, ça coûte très très cher. Une figurine, typiquement, t'as des figurines seules qui vont coûter très cher. On vous laisse une heure ensemble par ici, on passe du prochain au Sinfo, nos conflits sera le bestine, je suis sûr. Non, ça va, j'évite de parler politique, j'évite, peut-être coupable parfois, mais j'évite de parler politique sur la chaîne Twitch de mon employeur. Ce vieux bruit de la molette qui crie la fin de série, où ça ? Ça ? C'est une souris Logitech, elle est quasiment neuve en plus. Je peux virer... Ah ! Où tu parlais de ton expérience à toi ? Ah, j'ai changé ça. Bah, après, je peux virer la molette et passer en... Voilà, en mode défilement comme ça, mais j'aime bien le défilement cranté. Après, si ça vous gêne, je peux passer un défilement plus classique. Hein. Ah, par contre, là, on va passer Pixel Watch rapidement. Je trouve ça plutôt cool. Tu peux passer en mode roue libre. Bah écoute, je vais passer en mode roue libre. C'est mieux pour vous. Non, mais je vais passer en mode roue libre. Si vous êtes plusieurs à me le dire, en vrai, c'est mieux pour vous, il n'y a pas de souci. La Pixel Watch se met à jour, mesure de la SpO2, fréquence cardiaque anormale et nouveau bracelet. On avait déjà avant-hier, bon, ça c'est une news qui date d'hier en fin de journée. On avait déjà avant-hier des rumeurs. En tout cas, quelqu'un qui avait repéré, qui avait indiqué sur Reddit avoir justement la mesure de la SPO2 qui était enfin arrivée sur sa Pixel Watch. Et finalement, Google a confirmé que c'était bel et bien le cas, donc avec la mise à jour des fonctionnalités des smartphones, des Pixels, genre on y reviendra juste après, mais également sur la Pixel Watch avec 2 nouvelles fonctions de santé, la saturation en oxygène dans le sang, qui désormais peut être mesuré pendant le sommeil. Alors on rappelle que le capteur était présent depuis le début, depuis le lancement de la montre, mais Google n'avait pas intégré cette fonctionnalité logicielle. Pourquoi ? Pourquoi ? On ne sait pas. Mais voilà. Et également la fréquence cardiaque élevée. Donc c'est une fréquence cardiaque qui va être élevée. Évidemment, si vous êtes à 156 battements par minute pendant que vous faites du sport, c'est normal. Si vous êtes à 156 battements par minute alors que vous êtes statique, assis, etc., vous êtes censé être au repos, c'est un souci. Théoriquement, fréquence cardiaque classique pour une personne au repos, ça va dépendre des personnes, mais on va être grosso modo entre 70 et 90 battements par minute. 60 et 90. Voilà. 42 battements par minute perso hier. Waouh ! Ah ouais, t'as un très bon cardio. Bravo Epsilon. 42, c'est propre. Tu fais du sport, j'imagine. 42, c'est ce qu'on a chez des athlètes de haut niveau, hein, en fréquence cardiaque au repos. Si je suis à 180 battements par minute en me levant de mon lit, c'est good. Non, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, Eximiditech. La nuit aussi, je suis à 43. Ok. Eh ben, vous avez de la chance. Parce que moi, justement, en courant pour améliorer ma fréquence cardiaque au repos, je suis à 59 ou 57 dans le meilleur des cas. 43, c'est vachement bien. Tant pis, je vais clamser. Moi, je suis à 180 quand je cours à allure élevée. Hein. 180, c'est quand même la fréquence cardiaque maximale de la plupart d'une personne. Ce qu'on a tendance à dire, c'est grosso modo, tu prends 220 moins ton âge et tu as ta fréquence cardiaque au repos. Ta fréquence cardiaque maximale. Donc, admettons, tu as 40 ans. Je sais plus quel est ton âge, je sais pas quel est ton âge avec Similitech. Si tu as 40 ans, théoriquement, 180, c'est censé être ta fréquence cardiaque maximale. Après, ça varie évidemment. Moi, je crois que je peux monter jusqu'à 192, 194. faut que je me fasse un test d'ailleurs ce week-end de fréquence cardiaque maximale. 220 moins âge égale... Ouais, alors c'est grosso modo, mais effectivement l'heure du bus grosso modo c'est ça. 110 au réveil perso. Ah oui, 110 au réveil c'est... Oui. Donc tu passes de 43 à 110, ça se fait de la marge. Du coup je peux aller jusqu'à 201 BPM. Ok, pas mal. Je suis à 170 voire 200 que quand je fais de l'escalade à 8-10 mètres. Je précise que j'ai un terrible vertige, c'est uniquement quand je regarde le bas. Ok. Après, ça dépend ce que vous cherchez à faire comme effort, avec un effort avec ou sans. Oui, c'est ça. Si vous courez, enfin, si vous entraînez en anaérobie, donc anaérobie, ça veut dire que vous courez avec un système. Enfin, grosso modo, vous avez plus suffisamment d'oxygène pour courir. Voilà, donc vous allez vous reposer sur d'autres éléments, notamment le sucre, le gras et tout ça. Et là, vous allez monter à une fréquence cardiaque qui va être beaucoup plus élevée. C'est typiquement ce qu'on fait quand on fait du sprint sans air. Oui. Bah sans air ou même, de toute façon, même quand tu cours, quand tu cours en sprint, tu utilises un système anaérobique, puisqu'en fait, tu n'arrives plus à avoir suffisamment d'oxygène pour compenser ton effort. Donc c'est le système anaérobique qui va prendre la relève. Je progresse car je ne montais pas à la deuxième marche d'un escabeau en septembre, 11 mètres et mon max depuis 2 semaines. Et bah bravo Monigo, GG d'avoir vaincu ton vertige. Moi, pour le coup, je souffre à peu près de la même chose en termes de vertige. Le truc qui m'avait fait du bien, c'est quand j'étais ado, j'ai fait une Via Ferrata. Et bah... Alors, accompagné par mon cousin à l'époque, une Via Ferrata, c'était pas évident. Super intéressant, est-ce que tu peux réexpliquer l'effet aérobie? Alors, je suis pas hyper au point là-dessus, ça vaudrait peut-être le coup qu'on fasse un dossier un jour, mais grosso modo, quand tu vas faire un effort, tu vas avoir deux systèmes différents qui vont travailler. Le système aérobique, donc, pour lequel tu vas utiliser tu vas utiliser de l'oxygène, en gros, tes efforts vont être compensés par l'oxygène que tu absorbes, et le système anaérobique, où pour le coup, l'oxygène que tu absorbes ne va pas être suffisante pour compenser tes muscles. Et donc, ça va être essentiellement pour les efforts dans l'eau, par exemple, ou les efforts vraiment intenses. Un effort vraiment intense, du coup, tu vas travailler sur le système anaérobique. Et donc, tu vas beaucoup plus travailler du sprint ou voilà. Je fais du sport à assez bon niveau, crossfit, et je douille, je monte à 180. Après, le crossfit, c'est pas... Si, ça, c'est du cardio. Jamais fait de crossfit. Mon impression, c'est que c'est plus renforcement musculaire que cardio, mais je crois que c'est un peu les deux. Ah oui, donc effectivement. Si tu descends sous les 40, c'est a priori Fredo, c'est que ça te fait travailler le cardio. Je vais regarder, je suis à 69 battements par minute, mais je suis légèrement actif. Là, vous voyez, je suis à 78. Généralement, c'est ça, moi je suis à 75. C'est très cardio le crossfit, ok. En gros, pêle-mêle, ok, ouais, donc c'est les deux. Moi, je suis à 74. Là, ça descend, hop. J'ai ma Garmin. Tiens, et en parlant de... On n'en a pas parlé, ça. En parlant de fréquence cardiaque, j'ai testé ça hier. Enfin, je suis en train de tester ça. Je vais essayer de boucler le test, d'ailleurs, cet après-midi. Les écouteurs Soundcore Liberty 4 qui ont un cardio-fréquence-mètre intégré. Donc, qui vont permettre, pendant que vous faites du sport, d'avoir la mesure de la fréquence cardiaque, même si vous n'avez pas de montre. Ou de ceinture abdominale type Garmin. Nous, on utilise celle-là, ce type de ceinture qu'on met du coup pour mesurer la fréquence cardiaque et vérifier si les montres sont fiables. Et évidemment, je l'ai fait également j'ai voulu vérifier également sur la montre de Soundcore pour voir si c'était fiable. Petit spoiler, si ça s'affiche, yes. En bleu, on a la mesure de référence, donc avec la ceinture Garmin. En multicolore, la mesure des écouteurs. Et vous voyez que c'est un peu n'importe quoi, en vrai. Ça m'a mesuré 194 BPM, ce qui est au-delà, je crois, de ma fréquence cardiaque maximale. La moyenne est inférieure à celle de la Garmin. Bref, c'est un peu n'importe quoi. Donc, voilà. Si vous voulez des mesures fiables, le mieux, ça reste des ceintures. Ensuite, les montres. Et ensuite, éventuellement, les écouteurs. Mais c'est quand même très gadget. Oui, viens faire du sport ici, Militech, c'est bien. Tiens, prends cette watch. Hop, je trouve le truc que je trouve débile sur les montres, c'est qu'ils nous laissent pas mettre nos propres programmes. Ça va dépendre des montres, mais sur une Garmin, tu peux sans aucun problème. Sur des montres très orientées sport, tu peux, hein. Tu peux même créer le tien. Aucune rayure en 2 ans sur lequel Epsilon, de quoi tu parlais? De ta montre. Ah, yes. Bah moi pareil, hein. Après, sur des montres de sport, on a d'ailleurs sorti le test de la Suunto verticale. Pardon, hein. Maxime qui a testé la montre, il a grimpé le Mont Blanc avec la montre. Il me bute. Il me bute avec ses tests. Voilà, Suunto vertical. Effectivement, en plus, on voit sur justement l'altimètre. Où est-ce qu'il l'a mise? Il y a un plan, je crois, où on le voit. On voit 3809 mètres, un truc comme ça, ou 3806 mètres. Il était vraiment. Parce qu'il est monté au sommet du Mont Blanc avec sa montre. Ah, c'est ça. Pardon, 4806 mètres. Et la montre repère justement l'altitude au mètre près. Il a quand même pensé à prendre une photo alors qu'il était pour son test, alors qu'il était au sommet du Mont Blanc. C'est donc hyper précis. Et avec une autonomie qui est incroyable aussi sur celle-là. L'autonomie, c'est le gros point fort de cette montre-là. Avec suivi GPS, entre 60 et 85 heures. Et uniquement avec le mode GPS le plus performant, sinon tu peux atteindre les 280 heures avec suivi GPS en mode performant. Donc c'est quand même... Et au quotidien, entre 30 et 60 jours d'autonomie. Donc ça, c'est... Très très propre cette montre là. Montre de sport, hein, évidemment. En dehors des fonctionnalités sportives, vous allez pas avoir grand chose là-dessus. J'espère qu'il a pris un x2 sur la pige pour cet exploit. Même pas. Il l'a fait pour le plaisir, on lui a pas demandé hein, de monter en haut. Mais beaucoup de. Moi j'ai galéré à courir un 10 km dimanche. Lui il y a deux semaines, il grimpait le Mont Blanc. Elle a l'air fat, ouais, elle est plutôt fat. Elle est plutôt fat, mais elle a un design. Or c'est Suunto, donc Suunto généralement ils ont des designs qui sont quand même très sobres. Justement, tu vas pas avoir le côté. Si je prends la Garmin. Qui est la principale concurrente, hein, mais ça va être la Fenix 7X ou Fenix 7 tout court. La Garmin Fenix 7, quand on aura des images, elle est quand même beaucoup plus. En plus, c'est notre photo à nous, ça. Il y a un côté voilà, plus baroudeuse sur cette montre-là. Là, on a un... voilà, c'est beaucoup plus sobre. Bah, serait capable, mais en l'occurrence, les exemples qu'il donne lui, parce qu'il donne plusieurs exemples sur l'autonomie, enfin l'autonomie à laquelle il a eu droit. Test 1 avec 14 heures, enfin 15 heures de suivi GPS et souvent utilisation souvent de la cartographie, il a tenu 12 jours. Test 2 avec 21 heures de suivi GPS, il a tenu 11 jours. Test 3 avec 32 heures de suivi GPS, il a tenu 9 jours. Ça va, 32 heures de suivi GPS, faut les faire. Sur un entraînement, vous faites un entraînement d'une heure, vous avez une heure de suivi GPS. Donc, enfin, le GPS, il est utilisé quasiment que pour les suivis pendant vos entraînements, à part en randonnée ou dans des cas un peu particuliers comme celui-là. Mais voilà. Mais voilà, cette montre, gros coup de cœur, surtout pour l'autonomie. Le logiciel, c'est pas encore incroyable. Il y a quelques ralentissements. Mais l'autonomie est incroyable et le suivi et la cartographie. Le fait d'avoir ça enfin sur une Suunto parce que c'est la première fois que ça arrive. Avant ça n'était pas là. Quand on parle de cartographie, c'est ça. Ça, voilà. Le fait de voir les sentiers, etc. En plus, ils sont basés sur OpenStreetMap. Donc c'est cool parce que c'est de l'open source et que c'est mis à jour régulièrement. Et qu'en plus, ils n'ont pas besoin de payer des fonds de cartes à d'autres boîtes, donc à Nokia ou à d'autres. Donc c'est cool. Je trouve qu'elle fait bien plus grosse Suunto. Ouais, bah elle fait bien. Après, il y a un truc à garder en tête, c'est que Maxime a un poignet très fin. Donc j'imagine que ça joue aussi. Et si on regarde le test de la Garmin, on va essayer de voir sur la Garmin Fenix 7X. Et encore, ça c'est la 7, hein, c'est pas la 7X, elle est peut-être. Voilà, là on voit le côté quand même aussi montre massive pour un poignet qui est relativement petit. La Pixel Watch tient même pas 24 heures et ose dire suivi. Oui, non, mais Pixel Watch c'est une blague. Enfin, c'est pas une montre de sport la Pixel Watch. Enfin, et l'autonomie est désastreuse. Moi, c'est pour ça que c'est pas une montre que je recommande particulièrement. En tout cas, pour un usage sportif, ça sert à rien. Je dois vous laisser, les amis. À bientôt demain matin, comme d'hab. Ouais, je sais plus qui est en live demain matin, mais il y aura du monde. Et cet après-midi, il n'y a pas de live, encore une fois. Bonne journée, LSG Snake. Écoutez, je vais vérifier s'il y a d'autres actus. Pixel Watch, on a fini. De toute façon, c'est vrai qu'à la base, on était parti sur la Pixel Watch. Ah si, on peut faire ça. Les WF Milix M5, donc les prochains écouteurs sans fil de Sony qui devraient être annoncés relativement rapidement. On a de plus en plus de fuites, notamment qui nous viennent du site allemand WinFuture et du journaliste Roland Quint. Nouvelles informations. On a des infos sur les transducteurs, donc les haut-parleurs des écouteurs, la capacité des batteries des écouteurs et du boîtier. Donc d'après les informations de Roland Quint, on aurait de nouveaux transducteurs qui s'appellerait Dynamic Driver X, d'un diamètre de 8,4 mm contre 6 mm pour les WF Milix M4, le tout dans un format léger. 5,9 grammes contre 7,3 pour les précédents écouteurs. Donc, grosse amélioration, ça on l'avait déjà vu de toute façon sur une précédente actu. Grosso modo, le site The Walkman Blog s'est amusé en prenant l'échelle donc, sur les fuites des écouteurs, genre ça, en se disant les embouts ils feront la même taille, ce qui est relativement logique. Sur les visuels, donc on peut comparer les anciens écouteurs, les WF Milix M4 en transparence aux WF Milix M5 qu'on voit là, et donc effectivement on aurait des WF Milix M5 bien plus compacts, et ça c'est cool parce que c'est un des gros soucis sur ces écouteurs là, finalement ils étaient quand même assez massifs, même si c'était une belle amélioration par rapport aux WF Milix M3, là on aurait enfin des écouteurs à la fois compacts et légers avec un poids de 5,9 grammes. Finalement, de quoi lutter un peu, pas lutter, mais en tout cas, reprendre un peu ce que Sony avait fait avec les Linkbuds S, qui avaient été présentés comme les écouteurs les plus légers de Sony et tout ça, mais pour le coup, qui effectivement étaient très confortables. donc, et avec un poids de... ils annonçaient quoi comme poids sur cela ? 4,8 grammes. Donc on aurait 1 gramme de plus par écouteur sur les nouveaux. Mais voilà, ça peut être intéressant. Autonomie de 500 mAh dans le boîtier, de quoi permettre 24 heures d'autonomie. Certification IP57. Donc belle certification d'étanchéité. IP57, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que évidemment ils sont protégés contre les éclaboussures, mais également contre la poussière et également contre l'immersion à faible profondeur. Donc c'est plutôt bien. Les WF Mini XM4 n'étaient pas pour les petites oreilles. Exactement. Tout à fait. Le GPS, c'est sur le téléphone. Les Watch sont pas censés être des téléphones. Je suis pas d'accord. Moi, ma Garmin a un meilleur GPS que mon téléphone. Et quand tu veux aller courir, par exemple, pour ton entraînement, t'as pas forcément envie d'avoir ton téléphone avec toi. Parfois, t'as juste envie d'avoir ta montre. Et donc, du coup, avec tes morceaux de musique stockés sur ta montre, une paire d'écouteurs et de pas t'encombrer d'un truc au poignet. Donc voilà. Je trouve Bose devant quand même. J'ai les QC. Oui, non, mais alors, c'est aussi une des questions. Bah, et je connais. Hein. C'est une des questions qui se posent. Fredo, très bon choix. Les Sony WF-1000 XM4, quand ils sont sortis, c'était une des références en termes de réduction de bruit. Ils étaient très très propres pour la réduction de bruit active. Depuis, ils sont quand même largement fait dépasser par les Bose QC AirPods 2 et les Apple AirPods Pro 2 qui ont été lancés en fin d'année dernière, les deux paires. Et donc Sony a du retard à rattraper aussi en termes de réduction de bruit. Donc voilà. Geoffroy, le fixeur qui nous manque tout son matos. Il y a ça aussi, mais perso, j'ai le téléphone pas loin. Voilà, ça va dépendre des... Et puis, aujourd'hui... Très honnêtement, moi, ma montre Garmin, vraiment, a un meilleur suivi GPS que... Je crois que j'avais fait le test, en plus. Hein, qu'un téléphone Vivo, qui est pourtant plus grand, donc théoriquement, il devrait avoir... voilà. Forerunner 255, test for Android. Parce qu'à l'époque, je testais les montres en me basant sur le GPS... Enfin, le GPS des montres en me basant sur le GPS du téléphone. Et en fait, quand j'ai testé cette montre-là, et je l'ai achetée par la suite, j'ai réalisé que le suivi GPS était meilleur sur la montre que sur le téléphone. Alors, pas de beaucoup, mais voilà. Là, en bleu, on a le GPS du téléphone. En orange, on a le GPS de la montre, qui correspond bien plus au parcours que j'ai fait. Idem ici. Et là, c'est encore plus flagrant. On voit le sentier qui est là, hein. Le sentier qui est ici. En orange, sur la montre, ça suit complètement le parcours. Je vais zoomer un peu. En orange, ça suit complètement le parcours, enfin le sentier. En bleu, beaucoup moins. Et donc, en fait, comme le GPS est beaucoup plus fiable, bah du coup, on va avoir une prévision des allures quand on va courir ou quand on fait du vélo, qui sera, enfin, l'affichage des allures qui va être beaucoup plus fiable aussi. C'est pour ça, du coup, j'ai tendance aujourd'hui à me fier davantage. Et d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, quand je teste une montre connectée, pour le test du GPS, je me base en fait sur les... Enfin, ma référence est devenue ma montre, la Garmin, parce que je sais que la Garmin Forerunner 255 est une montre très fiable en termes de suivi GPS. Et que voilà, si on prend la Mobvoi TicWatch Pro 5 que j'ai testé récemment, fonctionnalité de santé, le suivi GPS, hop, la TicWatch Pro 5, on voit là sur le carrefour ici, la TicWatch Pro 5, elle fait un peu n'importe quoi, elle fait des gros raccourcis alors que la Garmin suit vraiment le parcours que j'ai fait. Ici, pareil, on n'est pas dans pas sur la Garmin en bleu, alors que sur la TicWatch Pro 5, on peut avoir un petit peu des dérivations. Donc voilà, tier list des montres de sport abordables. Définis abordable, Tarte au Marole. Définis abordable, t'as la Garmin Forerunner 55, mais qui est un peu limitée. Je crois qu'elle a été achetée par quelques collègues. On a un guide d'achat, de toute façon, des meilleures montres de sport. Et ensuite, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. 150-200 €, ok. Je te partage ça, puisqu'on a un guide spécial. Et 150-200 €, t'auras peut-être effectivement la Forerunner 55, qui va être pas mal, qui va pas avoir un GPS aussi précis que la 255. Non, Forerunner 55. Qui va pas avoir un GPS aussi précis, mais voilà. Mais qui va être, si je regarde, shopping, qui est voilà, 170 €. Faut bien définir abordable avec Geoffroy, on connaît ses moyens, raison de 1000 € par montre. Alors ça va. En plus, non, la Sunto Vertical, 600 €, pour du très haut de gamme, 600 €. Si vous regardez les dernières montres qu'on a testées, en vrai, bah on a testé la TicWatch qui est proposée à 360 €. Le Honor Band 7 à 60 €, alors s'il vous plaît, ça va, on n'est pas à 1000 €, hein. La Forerunner 265, la Forerunner 965, la Huawei Watch Ultimate, mais voilà. Samsung Galaxy Watch 5 40 mm, bonjour gros V45, 205 €. Ouais, mais la Galaxy Watch 5, c'est pas une montre de sport. Enfin, c'est une bonne montre connectée, mais tu vas pas avoir des fonctions sportives aussi poussées que sur des montres de sport avec programmation d'entraînement, etc. J'ai peut-être un peu d'infos, mais tu as donné ton avis sur les Amazfit. Alors, je ne l'ai pas donné, parce que le test est sorti il y a un petit moment maintenant, je crois que c'était le week-end dernier, mais je vais vous partager le lien ici. Ce sera plus... Ah, sur les écouteurs Amazfit, pardon. Non, attends, sur les Amazfit. Pardon, je confonds Amazfit et TicWatch depuis des années. Amazfit, le problème... Les montres sont pas mal. Le problème que j'ai, c'est qu'en fait, on peut plus les tester parce qu'ils n'ont plus du tout de service de presse en France. Ils sont plus, quasiment plus présents en France. Moi, j'ai des bons souvenirs sur le design. Et le problème, par contre, c'est que les mesures de fréquence cardiaque et les mesures de GPS, à l'époque, on ne les faisait pas de manière aussi poussée qu'aujourd'hui. Donc, je ne saurais pas te dire ce que ça vaut. Je ne sais plus ce qu'ils ont. Et pareil, sur les programmes de sport et tout ça, je ne saurais pas te dire. Les retours sont plutôt bons, généralement, sur les Amazfit. C'est un conseil de bracelet connecté qui surveille la fréquence, le sommeil, assez petit et pas forcément avec un écran. Assez petit et pas forcément avec un écran. Bah, plutôt les Xiaomi. Les Xiaomi ou les Honor. Voilà. Le problème de la Watch 5, c'est qu'elle tient 2 heures si tu lances un mode de sport. Oui. Aussi. La T-Rex 2 par exemple. Faut toujours précommander ou attendre 6 mois au Indigo. Oui. Écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous embrasse bien fort. Oui, je vais regarder qui je peux raid. Je connais pas Lady Sunday pour le coup. Je vais voir déjà sur les personnes que j'ai l'habitude de suivre. Ça ne te dérange pas. Et ensuite, si jamais je n'ai personne, et eh ben écoute, je n'ai personne. Donc on va aller regarder. Lady. De quoi est-ce qu'elle parle, Lady Sunday? Ah bah tiens, talk. Ok. Et bon, on va faire ça. Merci pour la proposition. Sur ce, moi, je vous embrasse bien fort. C'est quoi la durée moyenne du support logiciel pour les montres Wear OS? Je ne sais pas. Ça va dépendre des constructeurs, essentiellement. Ils ont changé leur promo. Hop. Merci à toi. Bonne fin de live. Bonne fin de journée à tout le monde. Je vous prépare le raid. Et je vous fais de gros bisous.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.